Je recommence là où j'avais laissé les choses il y a 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines, on avait entamé une discussion justement de l'Empire portugais à partir de Lisbonne, à partir donc de cette ville qui était tout d'abord, avant la conquête par le roi de Portugal, une ville musulmane, une ville portuaire. Et puis qui est devenu progressivement le centre de l'Empire à partir du XVe siècle. Et on a vu les transformations dans cette ville. Et puis, vers la fin du cours, on a aussi essayé de développer un effet de jeu de miroir, pour ainsi dire, en regardant également le centre de l'Empire en Asie, c'est-à-dire la ville de Goa. Qui avait donc un certain nombre de ressemblances, bien sûr, par rapport à Lisbonne. C'était aussi une ville musulmane conquise par les chrétiens. On a également fait des transformations, parfois en remplaçant des lieux ou des centres par d'autres centres qui avaient plus ou moins le même genre de fonction. Mais également, on a vu que, en se développant au cours du XVIe siècle, Goa est finalement devenue une ville un peu comme Lisbonne, où on avait plus ou moins donc essayé d'homogénéiser. On n'a pas réussi à faire sortir tous les hindous, mais on a quand même fait en sorte que la population chrétienne devienne la population dominante. Il y avait toujours des hindous, il y avait très peu de musulmans vers la fin du XVIe siècle. Et cette ville, parfois appelée d'une façon un peu exagérément complémentaire, la Rome de l'Orient. Cette ville était donc une ville qui était considérée en quelque sorte comme une version modifiée, mais tout de même une version qui dépendait en quelque sorte du modèle de la ville capitale qui existait dans le métropole. Mais bien sûr, ce n'était pas la seule ville que les Portugais possédaient. Sur les rives de l'océan Indien. Ils avaient aussi d'autres villes, des villes qui dérivaient parfois de modèles très différents. Voilà une ville qui était donc entre le golfe Persique et la côte occidentale de l'Inde, c'est la ville de Diu. Aussi une ville importante avant la conquête faite par les Portugais. Et les Portugais ont donc pris cette ville des sultans de Gujarat, mais en fait, avant la conquête faite par les Portugais, c'était en partie un contrat et en partie une conquête. Cette ville avait été contrôlée par une série de personnes, dont des personnes qui sont un peu mystérieuses, on ne connaît pas vraiment leurs origines. Il y avait par exemple un seigneur de guerre qui s'appelait Malik Ayaz, qui était celui qui a dominé cette ville portuaire au début du XVIe siècle. Et puis il y avait bien sûr Khaja Safar Salmani, ce sujet ottoman qui est venu vivre dans ce port. Et parfois on se demandait si ce port n'avait pas de ressemblance comme conséquence à des villes de la Méditerranée. Il y a une version, à mon avis, un peu fantaisiste qui nous dit que cette ville était plus ou moins une version orientale de Dubrovnik, de Ragouze. Mais je trouve ça, en fin de compte, peu probable parce qu'en réalité, ni Khaja Safar, qui a dominé cette ville dans les années 30, ni Malik Ayaz étaient à proprement dire des natifs de l'Adriatique. En fait, ils étaient, dans un cas, probablement venus de Otranto, et dans l'autre, dans le cas de Malik Ayaz, ils étaient très probablement géorgiens. Mais en tout cas, il n'était pas forcément des alentours de Ragouze. On a donc le choix de toute une série de ces villes fortifiées quand on regarde l'Empire portugais en océan Indien, c'est-à-dire des villes reprises et reconstruites, transformées, des villes comme des petites fortifications comme celle-ci, où on va plaquer une fortification portugaise sur une ville déjà existante. Ça, c'est une ville qui existait au Kerala, dans les alentours de Calicut, qui s'appelle Chalium, où les Portugais avaient bâti une forteresse, mais qui n'a pas duré très très longtemps. Et bien sûr, il y a peut-être l'exemple le plus célèbre, qui est l'exemple donc de Malacca. Je n'ai pas de la chance aujourd'hui avec ça, mais en tout cas, vous voyez Malacca sur la péninsule malaise et cette ville donc qui a joué un rôle très important, disons plus ou moins à partir de la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle. C'était le centre d'un sultanat qui dominait la péninsule malaise, mais aussi une partie de Sumatra. Et puis, les Portugais l'ont pris en 1511. Ils l'ont gardé pendant 130 ans, jusqu'en 1641. Et pendant cette époque, ils ont donc, comme ils avaient l'habitude de faire, utilisé des éléments de la ville existante, mais aussi transformé la ville jusqu'à un certain point. Voici une version de cette ville de la plume de Gaspar Correia, ce chroniqueur qui était aussi quelqu'un qui savait très bien dessiner. Ça serait donc Malacca, selon lui, dans les premières décennies du XVIe siècle. Mais on sait que petit à petit, cette ville a été transformée pour des raisons différentes. Une partie des raisons ressemblait pas mal à des raisons pour la transformation de Goa, c'est-à-dire on a chassé les musulmans. Donc il y avait une communauté très importante des musulmans gujaratais, mais aussi des musulmans javanais qui ont été obligés de quitter la ville. La seule communauté importante qui est restée dans cette ville, parmi celles qui dominaient au moment de la conquête, c'était les Tamouls. Mais même eux, ils étaient progressivement marginalisés. Et donc, on voit petit à petit la transformation de cette ville qui devient cette espèce de ville fortifiée, dominée par les Portugais qui résident à l'intérieur donc, de l'enceinte, mais qui ont aussi leur jardin, ce qu'on appelle en malais les dusun autour. Et puis, il y a aussi progressivement la construction des églises, des paroisses, les freguesias, qui sont très, de plus en plus nombreuses. Et finalement, on sait que cette ville, qui était une ville florissante en 1511, était devenue une ville assez pauvre en 1641, au moment de la conquête hollandaise, parce que progressivement, en fait, la présence des Portugais a fait en sorte que la ville n'a pas pu retenir son importance économique, comme les autres ont voulu quitter la ville pour s'installer ailleurs, notamment, par exemple, dans la ville de Aceh, qui se trouve sur le point nord de Sumatra, par le nord, là-bas. Alors, donc, ça c'est une espèce de développement possible qu'on peut faire en prenant, donc, d'un côté, une ville comme Goa qui en quelque sorte est le miroir de métropole, puis d'autres villes qui ont beaucoup moins de succès. Et on peut donc faire une espèce d'étude comparative des villes à l'intérieur de l'Empire. Mais aujourd'hui, mon intention, c'est de ne pas continuer sur cette histoire des Portugais. C'est peut-être un thème sur lequel je vais revenir plus tard, en pensant plus de la présence portugaise dans l'Atlantique. En fait, je veux passer à un exemple qui est tout à fait autre, mais je pense qu'il y a un exemple qu'on ne peut pas éviter de traiter si on veut faire quelque chose de sérieux sur les plaques tournantes de l'époque moderne, sur les grandes villes. Et bien sûr, il faut qu'on revienne vers les Ottomans. Alors donc, vous voyez qu'on avait déjà traité une ville qui en quelque sorte était une ville ottomane, qui est La Mecque, mais La Mecque était considérée comme relativement marginale dans le monde ottoman pour deux raisons, parce que tout d'abord c'était une ville arabe et pas une ville qui était dans le monde turc pour ainsi dire, et même les Mecquois avaient un peu ce sentiment de temps à autre qu'ils étaient marginalisés par les Turcs. Et il y avait aussi une autre raison, c'est-à-dire que la Mecque était en fin de compte un peu isolée, il n'avait pas les possibilités de s'épanouir, et en plus aussi il y avait des inconvénients assez importants, comme le fait qu'à l'époque, les non-musulmans n'étaient pas censés rentrer dans la ville. Donc vous voyez qu'il y avait des limites, et on ne peut pas vraiment décrire cette ville comme une ville cosmopolite, étant donné ces circonstances. Donc, ça, c'est le cas de la Mecque, mais le cas vraiment important sur lequel il faut bien sûr revenir, c'est le cas de Constantinople ou devenu Istanbul plus tard. Alors, vous voyez qu'avec Constantinople, on est déjà dans un cas assez curieux, assez dramatique, qui se ressemble un peu à quelques-unes des villes de l'Inde portugaise. Si on fait la comparaison strictement d'un point de vue géographique, on peut comparer Constantinople à deux villes, à Malacca, précisément parce que Malacca avait le contrôle sur le détroit de Malacca. Et c'était à cause de ça que ça a toujours joué d'une certaine importance stratégique. Mais il y a aussi une autre ville qui a une certaine ressemblance, qui est la ville de Hormuz, conquis par les Portugais en 1515. Et ça, c'est parce que Hormuz contrôle, en quelque sorte, le passage dans le golfe Persique. C'est l'île de Djaroun, qu'on appelle aussi Hormuz, ou on appelle le royaume parfois Hormuz et l'île Djaroun. Et le cas de Constantinople, en quelque sorte, c'est encore plus dramatique d'un point de vue strictement géographique. Rappelons qu'il y a même deux contraintes très fortes par rapport à Constantinople. Il y a bien sûr le Bosphore, c'est-à-dire le passage entre la mer de Marmara et la mer Noire. Mais il y a aussi, bien sûr, pour rentrer en arrivant de la Méditerranée, il y a aussi cette autre contrainte assez forte qui sont les Dardanelles. Hein. Il y a donc les Hellespont qui fait que accéder même dans les deux sens, c'est une espèce d'exploit. De ce point de vue-là, cette location fait de Constantinople déjà quelque chose d'assez intéressant, d'assez dramatique. Quand on revient vers l'époque des Byzantins, c'est très important de se rappeler de ça, même si ce n'est pas un aspect que je vais beaucoup développer aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'il y avait toujours cet aspect stratégique d'une présence comme une espèce de point de passage qui fait que cette ville est une ville assez spécifique, assez dramatique. C'est pour cela d'ailleurs que même au XVIIe siècle, cette ville sera célébrée, par exemple, par des poètes indiens qui vont dire, bien sûr, on a des grandes villes en Inde, mais il n'y a rien que se compare à Constantinople, à Constantinie, comme on l'appelait à l'époque, parce que le mot Istanbul n'était pas tout à fait courant, par exemple, en Inde. Alors, c'est quoi donc cette ville? Rappelons-nous rapidement de ces aspects de la ville. Donc, une ville assez curieuse. Il y a donc le Bosphore qui part dans ce sens-là. Il y a la ville qui reste, en quelque sorte, la ville stable pendant des siècles. Et puis, il y a cet aspect assez curieux, assez spécifique, vous voyez, de la Corne d'Or qui sépare la ville proprement dite de l'autre côté qui s'appelle, qui a des noms différents, souvent ça s'appelle globalement Galata. Aujourd'hui, il y a une partie de ça qui s'appelle Beyoğlu, mais Beyoğlu, en fait, ça reprend exactement la même région qui était autrefois ce qu'on appelait, et on va revenir sur ça, Pera. Donc, qui était là où, on va voir ça, là où la présence européenne était centrée, par exemple, pendant le 15e, 16e, 17e siècle, ce qui est marqué par le nombre 13, si je ne me trompe pas là. Alors, donc, regardons rapidement la chronologie, même si c'est quelque chose de très connu. Hein. Donc, ville fondée plus ou moins au 4e siècle, inaugurée en 330, qui va continuer à s'épanouir pendant quelques siècles. En 537, ce monument qui reste quand même, qui marque un peu l'image de cette ville, qui est la Sainte-Sophie, est achevé en 537. Depuis presque les débuts de l'islam, Constantinople fait l'objet des attaques par les Arabes qui trouvent que c'est une ville qui serait très intéressante à prendre et faire le leur. Il y a donc une série d'attaques arabes, par exemple celle de 673-77. Ce sont des épisodes sur lesquels parfois on a très peu de ressources, mais néanmoins, ce sont des moments qui sont mentionnés. À part les Arabes, bien sûr, il y a aussi des attaques venant des Bulgares, il y a des attaques venant aussi parfois des Russes. C'est une ville qui a su, presque depuis sa naissance, résister à une série d'attaques, une série de sièges. Mais c'est aussi une ville qui très vite devient une ville importante pour le commerce de court terme, mais aussi pour le commerce de long terme. Donc, vous voyez, déjà à la fin de l'XIe siècle, les Vénitiens vont obtenir des privilèges commerciaux pour s'installer dans cette ville, mais aussi les Génois, progressivement, deviennent des partenaires importants des Byzantins. Puis, il y a ce moment très connu, ce moment dramatique qui est la prise de Constantinople, sur lequel il y a toujours un peu de controverse. Encore aujourd'hui, la papauté est obligée de s'excuser auprès de l'Église orientale pour cet épisode des croisés qui se sont très mal comportés et qui ont donc pris Constantinople en 204 dans le cadre des croisades. Par conséquent, donc, les Byzantins sont obligés de abandonner la ville, mais ils vont donc revenir avec Michel VIII, paléologue, en 1261, qui vont donc reprendre la ville et stabiliser cette ville à peu près pendant un siècle, mais cette ville devient progressivement de plus en plus petite. Et donc, finalement, quand c'est pris par les Ottomans en 1453, on va voir que c'est une ville qui est assez réduite par rapport à ses heures de gloire. Voilà, donc, regardons ce qu'est cette ville plus ou moins à la fin de l'époque byzantine et au moment quand ça sera pris par les Ottomans. Il y a une forte présence des Italiens déjà à l'intérieur, même par exemple, dans la défense de Constantinople en 1453, les Italiens vont jouer un rôle relativement important. Il y a des fortifications qui restent assez importantes des deux côtés. Il y a aussi, vous voyez, quelques murailles du côté de Galata. Et puis, il y a ces éléments. Vous voyez la Sainte-Sophie. Malheureusement, ça ne marche pas, donc je ne peux pas vous le montrer avec ça. Mais vous voyez la Sainte-Sophie là. Vous voyez plus haut, en fait, il y a l'Acropolis. Il y a, bien sûr, aussi les limites de la ville où, apparemment, à l'époque byzantine, on ne croyait pas qu'il y avait le tombeau de quelqu'un qui était très important au début de l'histoire de l'islam. Mais puis, les Ottomans ont décidé qu'il y avait un lieu de pèlerinage pour les musulmans qui était sur, à la fin de la Corne d'Or, un endroit qui s'appelle Ayyub. C'est nommé pour Ayyub, qui était un des soi-disant compagnons du prophète. Et puis, vous voyez aussi que il y avait un moment assez, qui a duré assez longtemps, quand les Ottomans ont progressivement encerclé cette ville. Cette ville était devenue de plus en plus isolée, et ça explique aussi en partie que ça a été de moins en moins populé au cours de la fin du XIVe, début du XVe siècle. Et finalement, comme je vous ai dit, c'est pris par les Ottomans au milieu du XVe siècle, ce moment donc, où l'Empire byzantin, là vous voyez la version déjà réduite, et puis ça sera encore plus réduit. Donc, ici, une version assez schématique de la chute. Vous voyez les différents groupes qui ont voulu défendre la ville, parmi lesquels donc, il y a des membres de la famille royale, mais il y a aussi, vous voyez, des Catalans. Il y a aussi des Italiens, comme les Trevisano, les Bocchiardi, les Giustiniani. Donc, il y a les Contarini. Vous voyez qu'il y avait ces Italiens qui se sont impliqués d'une façon assez importante, à la fois dans les opérations navales, mais aussi en défendant les murs de l'intérieur. Et enfin, donc, la conquête par les Ottomans. Alors, la conquête par les Ottomans est un moment à la fois très dramatique, mais aussi qui marque un certain nombre de choses qui sont assez mal compris même aujourd'hui, parce que souvent on a tendance de relire cette histoire de ce qui s'est passé au milieu du XVe siècle à partir des sources plus tardives. Il y a bien sûr des sources contemporaines portant sur la conquête, mais les Ottomans ont en fait refait un peu cette histoire. Il y a des générations successives de chroniqueurs ottomans qui ont repris la question de la conquête. On sait qu'il y avait à certains niveaux de destruction, mais on sait aussi que dans certains cas assez célèbres, comme celui-ci, il y a un certain niveau de continuité, c'est-à-dire on a gardé et on a réutilisé les bâtiments. C'est exactement le même genre de choses qu'on a trouvé quand les passages étaient de l'autre côté, c'est-à-dire quand c'était des villes musulmanes qui deviennent des villes chrétiennes. Alors donc, bien sûr, la Sainte Sophie, la Hagia Sophia, qui est transformée en mosquée, mais tout en gardant des éléments importants qui restent et qui vont d'ailleurs, et on verra ça, même inspirer les Ottomans pour des bâtiments qu'ils vont bâtir postérieurement. Alors, donc, vous avez ça, mais regardons donc ce qui est la population de Constantinople en 1453. On dit 50 000, mais c'est probablement optimiste, c'est probablement même moins que ça, même que 50 000, mais regardons ce qui se passe. En 50 ans, ça passe de 50 000 à 200 000. Et pourquoi? Parce que, bien sûr, la première capitale importante des Ottomans était Bursa, et ils avaient donc passé leur centre administratif de Bursa à Istanbul, donc ça a contribué à la croissance de la ville, mais aussi ils ont fait venir de plus en plus de marchands, de plus en plus d'artisans, etc. Et en fait, c'est une croissance qui va continuer d'une façon encore plus dramatique. Donc vous voyez, on passe de 1530, de 200 000 à 400 000. Et là, si vous vous rappelez des chiffres qu'on a pour les villes européennes, c'est quand même très impressionnant, 400 000 en 1530. Ça fait plus que quatre fois Lisbonne qu'on a étudié. Et puis, ça continue, c'est un million à peu près à la fin du XVIe siècle. Par la suite, il y a un moment pendant le XVIIe siècle et pendant une partie du XVIIIe siècle quand on va à peine maintenir ce niveau. Donc, disons que la fin du XVIe, début du XVIIe, est en quelque sorte l'apogée. Et puis, vous pouvez aussi regarder pour la comparaison en 1600, que donc, à cette époque-là, Constantinople, ça fait 5 fois Londres, 2 fois et demi Paris, à peu près. Donc, c'est quand même, au cours d'un siècle, ça s'est transformé vraiment en quelque sorte. Si on prend la moitié occidentale de l'Eurasie, c'est devenu en fait la ville dominante. Si on prend la moitié orientale de l'Eurasie, bien sûr, il y a des villes concurrentes comme des villes chinoises ou quelques villes indiennes, bien sûr, ce sont tout à fait comparables. Alors, où commence donc cette transformation? Il y a plusieurs façons d'aborder la transformation, mais en fait, la façon la plus évidente, c'est en commençant par la construction de centres du pouvoir. Le centre du pouvoir, donc, qui est le Topkapısaray, qui n'était pas appelé le Topkapısaray, c'était appelé le Nouveau Palais. Le Nouveau Palais, parce qu'on est venu de Bruce, et donc on a abandonné plus ou moins un palais pour venir vers un autre. Et là, vous voyez, à gauche, c'est la première porte, et à droite, c'est la deuxième porte. Et à partir de la deuxième porte, on rentre vraiment à l'intérieur de la structure. Et là, vous voyez plus ou moins comment ça se présente, la structure qui a été achevé plus ou moins, avec quelques détails improvisés après, à la fin du XVIe siècle, mais en fait en grande partie dans la deuxième moitié du XVe. Donc c'est le demi-siècle après la conquête quand on va effectivement construire ce complexe, et ce complexe qui est assez curieux et, je dirais, assez original par rapport à presque toutes les autres grandes villes musulmanes de l'époque. Donc, ça, c'est une espèce de modèle où vous voyez comment le topcap est construit. C'est construit sur une série de cours. Et en passant, donc ça, on est déjà à la deuxième porte, vous voyez, ce n'est pas la première porte. Et donc, en passant de l'extérieur vers l'intérieur, ça devient de plus en plus inaccessible, de plus en plus difficile à passer. Et finalement, ça va avoir un effet très important, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Et là encore, il faut se garder d'un certain type d'anachronisme qu'on pratique parfois en prétendant que certains des aspects de la vie de ce palais et le rapport entre le palais et la ville qu'on voyait en fait à la fin du XVIIe siècle, parfois on fait comme si c'était déjà comme ça au XVe ou au XVIe siècle, et je vais revenir sur cette question parce que c'est manifestement pas le cas. Alors donc ce palais qui est assez hybride dans ses éléments, qui puise en partie dans des constructions qui viennent d'ailleurs en Anatolie, qui puise en partie des exemples ailleurs dans le Moyen-Orient, bien sûr, mais on peut aussi penser qu'il y a un peu d'influence balkanique, mais disons que l'influence européenne, comme on verra dans d'autres structures ottomanes, c'est probablement moins présent à ce moment du XVe siècle. Mais c'est sûr et certain qu'on a aussi utilisé des éléments venant des Byzantins. Rappelons-nous que après la chute de Constantinople, Fatima Mohammed, le conquérant, a pris dans son entourage quelques princes byzantins. Il a pris au moins deux neveux, si je ne me trompe pas, du dernier empereur. Ils ont été convertis et ils sont devenus donc des hauts fonctionnaires ottomans, parmi lesquels un est plus ou moins devenu un vizir très important. Donc, on a voulu préserver justement cette continuité entre l'élite byzantine et l'élite ottomane. Alors, donc, il faut se garder de prendre ce genre d'image qui est vraiment la cour ottomane au XVIIIe siècle. Et là, vous voyez où on est dans un cadre hautement ritualisé, où en quelque sorte, l'empereur ottoman se cache vraiment dans l'extrême intérieur du palais. Il fait en sorte qu'il est... c'est très, très difficile d'accéder à lui. Et parler avec lui, c'est encore plus difficile. Et donc, il faut se garder de l'idée que ça, cette image, qui est une image tout à fait crédible pour le XVIIIe siècle, c'est la façon dont la ville ou le palais fonctionne le palais fonctionne par rapport à la ville, par exemple, à la fin du XVe ou début du XVIe siècle. Et en fait, cette évolution est très, très bien expliquée dans un article que globalement, pas seulement par moi, mais en général, est considéré comme un article grand classique sur le sujet, qui est de l'historienne turque Gülrün Ecevoğlu, qui fait une comparaison entre les trois palais et les trois styles de fonctionnement des Ottomans, des Safavides et des Moghols, où elle explique qu'en réalité, il y a un changement pas très rapide, mais finalement assez dramatique dans la manière de la construction, comme elle dit, du regard, mais ici le regard c'est aussi le rituel et le fonctionnement des Ottomans, disons, entre le moment de la construction de Topkapı, qui est pour l'essentiel, le premier moment de la construction, c'est entre 1459 et 1479, hein, donc trois décennies plus ou moins après la conquête. Et donc, elle essaie de nous démontrer comment, en réalité, au début, disons, au 15e siècle, début 16e siècle, à l'époque de Mehmed le Conquérant, ou à l'époque de Selim, en fait, la cour ottomane était... structuré d'une façon assez informelle. Les rituels étaient plutôt limités et il y avait un aspect qui était très important, c'est-à-dire que le sultan bougeait sans cesse. Le sultan était vraiment quelqu'un qui était très actif militairement. Mehmed, bien sûr, a lui-même participé dans la conquête de la ville et Selim a participé dans la conquête, par exemple, de l'Égypte et de la Syrie, etc. Et d'ailleurs, pendant tout le XVIe siècle, le sultan est toujours en mouvement. Et le mouvement du sultan, en fait, ça fait partie du rythme de la ville. Mais progressivement, ça va changer. Alors là, par exemple, on est toujours au XVIe siècle. Ça, c'est la chronique illustrée de Sayyid Lokman, de la deuxième moitié du XVIe, où il nous montre encore une fois, là, c'est le moment quand le sultan de la fin du XVIe siècle, il organise un peu sa cour, mais par la suite, il va partir organiser des campagnes. Dans ce cas particulier, c'est en Hongrie. Donc, il part en Hongrie vers la fin du XVIe siècle. Et en fait, si on regarde cette chronique, sans cesse, il y a des va-et-vient du sultan. Et souvent, le sultan n'est même pas présenté dans son palais, il est présenté ailleurs, par exemple, dans les alentours ou dans les banlieues d'Istanbul. Par exemple, il y a un moment, ou même plusieurs moments, quand il est dans un endroit qui s'appelle Daoud Pasha. Et ce sultan, donc, est quelqu'un qui est très souvent aussi vu par ses sujets ailleurs que dans le palais. Donc, le sultan Soleiman, par exemple, il a été physiquement vu par beaucoup de gens sur les routes de campagne, à la fois vers l'Orient, parce qu'il est parti en campagne en Irak, même quelques fois, et puis surtout quand il faisait ses campagnes en Transylvanie, en Hongrie, et etc. Alors, donc ça, c'est le premier moment, mais puis, progressivement, les choses vont changer. Donc, je vais revenir sur ces changements, mais remarquons qu'on est en train donc de construire et solidifier le Topkapı, et qui était un palais assez curieux parce que ça surplombe la ville. Et nulle part ailleurs, par exemple, dans le monde iranien, la ville capitale, si vous regardez Isfahan, par exemple, et ça, c'est exactement ce que nous dit, par exemple, Mme Necibolu dans son article, le rapport physique entre le palais et la ville, c'est tout à fait autre. On est dans un niveau qui n'est pas du tout cette espèce de niveau qui passe de haut en bas. La même chose pour les grandes villes moghols, si on regarde Agra, puis si on regarde Shahjahanabad, Delhi, il n'y a pas du tout ce genre de rapport. Et d'ailleurs, il faut remarquer que si on va vers l'époque byzantine, les Byzantins non plus n'avaient pas ce genre de rapport. C'était le palais byzantin n'était pas là où se trouve le Topkapı. En fait, c'était plus vers le sud. C'est vers aujourd'hui, on trouve la zone de Sultan Ahmed, la mosquée bleue. C'est là, plus ou moins, où il y avait le complexe royal des Byzantins. Vous voyez, c'est ici, c'est donc de ce côté-ci de la Sainte-Sophie, tandis que là, les Ottomans ont choisi de dominer la ville d'une toute autre façon. Alors, donc, revenons à cette idée de l'évolution. Alors, l'argument, et je trouve ça tout à fait convaincant, l'argument Mme Necibolu, c'est qu'il y a une évolution lente qui va faire qu'au cours du XVIe siècle, il y a toujours une espèce de niveau d'ouverture, mais puis, progressivement, quand on rentre dans le XVIIe siècle, on a un changement dans lequel le sultan se retire. Le sultan se montre presque jamais. On est obligé d'aller à la recherche du sultan si on a envie de le voir. Et en fait, le jeu, c'est en fait de faire en sorte que la plupart des gens n'ont pas la possibilité de le voir. Donc, il devient une espèce de trésor caché, en quelque sorte. Tandis qu'autrefois, il était celui qui se promenait un peu partout. Alors, pour comprendre ça, en fait, il faut aussi suivre l'évolution de cette ville. Et on a la chance que au cours du XVIe siècle, il y avait une série à la fois de chroniqueurs assez connus qui ont décrit l'évolution de cette ville, mais je vais m'arrêter un moment sur un personnage assez extraordinaire qui maintenant est devenu l'objet d'un certain niveau d'attention, qui nous aide à comprendre ce qui se passe et comment cette évolution se fait entre ville et palais. Et ça, c'est Matrakçı Nasır. Alors, Matrachanasa, c'est quelqu'un qui c'est un espèce de type de personnage assez caractéristique du XVIe siècle. Il est normalement considéré comme un des trois ou quatre grands intellectuels de la ville au XVIe siècle. Celui qui est plus connu que lui vient d'un autre milieu entièrement, c'est Piri Reis. Piri Reis, qui était l'amiral ottoman, mais Piri Reis était donc plus ou moins lié avec Galata, et il était lié avec les milieux des marins. Mais c'était un homme libre. C'était quelqu'un qui venait d'une famille, probablement, qui avait quelques personnes d'une importance religieuse. Mais Matrachanasa, c'est tout à fait autre chose. C'est quelqu'un qui appartient à ce qu'on appelle le système de Devshirme. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'il appartient à ces jeunes hommes chrétiens qui, chaque année, étaient livrés au palais. Tout cela, ça posait problème du point de vue de juridique, parce que techniquement, si, même si on est chrétien ou juif, si on est sujet d'un roi musulman, si on est aimé, on est protégé. Mais les Ottomans avaient fait une exception à cette règle en disant que dans certaines provinces où il y avait des chrétiens, des villages étaient obligés de livrer quelques jeunes hommes chaque année, et ces gens-là étaient pris dans le palais en tant qu'esclaves, en tant que kol, comme on l'appelait. Et puis, ils étaient formés en lettres. Et bien sûr, ils étaient convertis, donc ils devenaient musulmans. Ils étaient formés en lettres, ils étaient formés en armes, ils savaient aussi manipuler l'épée et la plume. Et Matrachanasa, c'est en fait un très bon exemple de ça. C'est un Bosniaque d'origine chrétienne, mais qui rentre dans ce qu'on appelle l'Enderun, l'intérieur du palais. Il est formé là et il est quelqu'un, manifestement, qui avait beaucoup de talent. C'était quelqu'un qui pouvait écrire des chroniques. C'est quelqu'un qui s'intéressait à la construction militaire. C'est quelqu'un qui s'intéressait aux jeux. En fait, ce nom, c'est un nom assez curieux parce que matraque, en fait, c'est le même mot que le mot en français matraque. C'est parce que, en fait, il avait inventé un jeu qui se faisait avec des espèces de marteaux. C'était une version, si j'ose dire, turque de cricket du XVIe siècle. Mais à part ça, il était aussi quelqu'un qui était un très très bon dessinateur, qui souvent faisait des dessins en suivant les campagnes des Ottomans. Alors ça, si je ne me trompe pas, c'est par rapport à la présence des flottes ottomanes dans la Méditerranée occidentale. Il y a deux ou trois de ces images. Celle-là, il se peut que ça serait la flotte ottomane près de Toulon. Ça, c'est donc à l'époque de Khalid-ud-Din Barbarossa. Mais c'est aussi quelqu'un qui est devenu spécialiste des villes. Donc, qui faisait des dessins extrêmement détaillés des villes. Et voilà l'image qu'aujourd'hui elle est la plus associée avec lui. Ça, c'est donc sa version d'Istanbul. Vous voyez, ça veut dire, en effet, ça, c'est Istanbul, et ça, c'est l'autre côté. Donc, c'est la corne d'or entre les deux. Alors, on ne le voit pas très bien ici, mais en fait, on peut magnifier cette image. Et en faisant ça, on voit vraiment des détails de chaque quartier. De chaque quartier, de toutes les grandes mosquées, de tous les grands madrasas. Donc, en fait, ce n'est pas fait selon, disons, les schémas de la cartographie occidentale, mais c'est vraiment une carte qui a envie, en quelque sorte, d'être très, très précis, très, très réaliste. Et maintenant, petit à petit, les spécialistes de l'architecture et de l'organisation de la ville dans le monde ottoman ont commencé vraiment à apprécier l'importance de cette carte. Vous voyez ici le Topkapı Saray, c'est là. Mais à l'intérieur, donc, on peut commencer à voir vraiment chaque monument qui a été construit. Là, on est dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc, on est Donc, comme il est mort en 1564, c'est probablement vers les années 50 ou au début des années 60 que cette carte a été achevée. Il a d'ailleurs aussi fait d'autres cartes beaucoup plus jolies. Ça, c'est lié avec un atlas qu'il a fait en suivant les campagnes orientales de Soleiman vers l'Irak. Donc, ça, c'est aussi quelque chose. Ça, c'est la ville de Sultaniyeh, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit donc en regardant ces cartes? Manifestement, les versions qu'il a des villes de la Méditerranée sont beaucoup plus jolies et beaucoup moins soucieuses d'être précis. Ça, c'est peut-être Nice, je ne suis pas absolument sûr. Mais en tout cas, dans le cas d'Istanbul, il a vraiment pris énormément de soins et il s'avère donc du coup qu'il est le premier qui devient un grand témoin d'une intervention qui est en train de se préparer à ce moment dans cette ville-là. Et cette intervention, c'est due en partie au moins à ce monsieur, Sinan, qui s'appelle parfois dans l'historiographie des Ottomans Mimar Sinan, l'architecte Sinan. Sinan qui, donc, on n'est pas absolument sûr, mais il a vécu à peu près 100 ans, des années 1480 jusque dans les années 1580, et qui est donc le plus grand architecte de son époque. Sur Sinan, il y a quelques mystères. On sait que comme Matrakchinesu, il était d'origine chrétienne, probablement arménienne, mais il se peut, il y a aussi une petite possibilité qu'il soit grec. Mais de toute façon, il était chrétien, devenu musulman, et puis il est progressivement devenu celui qui a été chargé des projets les plus importants à Istanbul, mais aussi dans d'autres villes comme Edirne, par exemple, mais on peut compter ces constructions. Et si on commence à faire la liste de ces constructions, ça fait, il y a littéralement des centaines et des centaines de monuments qu'il a construits lui-même ou qu'il a été chargé de faire construire par ses disciples et par d'autres. Là encore, on a la chance d'avoir donc un livre de la même auteur, Madame Necipoğlu, portant sur lui. Mais on a aussi cette chance qu'il a laissé des autobiographies. En fait, il a laissé deux autobiographies plus ou moins complètes et puis trois fragments d'autobiographie. Et voici donc le texte de traduction de ces cinq textes venants du XVIe siècle, dans lequel il explique une série de choses. Il explique, par exemple, des raisons pour un certain nombre de ses choix. On voit aussi quels étaient les monuments que lui, il considérait comme importants et quelles étaient les choses qu'il considérait comme relativement mineures. Il nous dit effectivement qu'il a eu un long moment d'apprentissage, mais c'était vraiment à partir, disons, des années 40 que sa carrière a vraiment démarré et c'est là où il a fait construire des monuments dont il était vraiment fier, à Istanbul et à Edirne. Et parmi ces monuments, vous avez le Soleimaniye, peut-être le monument après Hagia Sophia, le plus reconnaissable d'Istanbul, donc qui est la fondation associée avec Soleiman, qu'il a déjà commencé à construire pendant le vivant du sultan. Mais il a aussi construit vraiment énormément de choses, chacun a ses préférences. Moi, j'ai toujours aimé ce petit mosquée-là, qui est le Kilij Ali Pasha Jami, qui est près du Bosphore. Mais on peut choisir parmi au moins une belle quinzaine de ces monuments dans Istanbul, pour ne pas parler d'autres pas. Et en fait, c'est la transformation d'Istanbul par Sinan, qui en partie est documenté dans cette carte de Matrakchinesu. Alors, est-ce qu'il faut donc voir Istanbul comme quelque chose qui est une ville isolée, qui n'a pas de contexte, qui n'a pas des alentours? Bien sûr que non. Bien sûr qu'on ne peut pas faire une analyse à la Skinner. Vous voyez qu'on avait vu dans le cas chinois comment il y avait cette théorie de la ville organique qui pousse de haut en bas. En fait, il y a une espèce de manque de proportion dans le cas d'Istanbul. Mais néanmoins, rappelons-nous, hein, ça c'est plus ou moins la situation dans l'Anatolie au XVIe, début du XVIIe siècle. Hein. Là, vous avez Istanbul, hein, et vous voyez la taille relative de ces villes, hein, qui est la seule ville qui fait 500 000 habitants. Mais puis, vous avez quelques autres d'une taille plus modeste, par exemple, Izmir, qui va devenir important au XVIIe, vous avez Kayseri, etc. Mais en réalité, il y a une espèce de disproportion entre cette ville, finalement, et ses alentours. Il y a toujours des disproportions entre les villes capitales et les villes qui les entourent, mais dans ce cas-ci, c'est particulièrement exagéré. Alors, comme pour aborder cette question de la ville dans le contexte, il y a en fait au moins deux façons de faire ça, parmi d'autres, il y a peut-être encore cinq ou six, mais je vais choisir ces deux. Une façon d'aborder Istanbul, qui a été fait par un certain nombre de personnes, était en utilisant un concept qui vient de l'anthropologue Karl Polanyi, qui est de le voir comme ce qu'on appelle un port de commerce, un port of commerce. Ça, c'est un texte classique de Polanyi qui remonte aux années 1950. Ça a été traduit en français sous un titre un peu difficile à comprendre. Mais en tout cas, dans cet article, Polanyi a proposé que parfois, il y avait des villes qui, en fait, étaient presque totalement redevables à leur situation extraordinaire, parce qu'elles étaient dans une zone de transition, soit une zone de transition écologique, soit une zone de transition géographique. Et vous voyez que, si on pense aux origines des Dardanelles et aux origines du Bosphore, bien sûr qu'il y avait probablement quelque part dans le passé très distant des événements sismiques qui sont derrière ça. Mais de toute façon, on peut voir ça comme une espèce de localisation géographique assez extraordinaire, comme par exemple pour Polanyi, la transition entre par exemple le monde désertique et le monde de montagne qui pouvait produire un port de commerce. Donc ça serait une façon de voir une ville comme Istanbul. Mais il y avait aussi un autre point de vue, et ce point de vue est celui du plus grand historien ottoman probablement du XXe siècle, Halil Inalcık, qui lui a proposé que en fait la ville était très peu une ville qui était comment créée de bas en haut. Il a donc voulu nous dire que, je pense qu'il puisait un peu dans la littérature sur l'Union soviétique. Pour lui, cette ville faisait partie de ce qu'il appelait une économie de commandement. Donc, il a donné énormément d'importance à l'intervention de l'État ottoman. Donc, pour lui, cette ville était en quelque sorte la créature de l'État ottoman et il y avait peu d'éléments qui étaient vraiment autonomes par rapport au fonctionnement de l'État. Et là encore, on revient donc en quelque sorte à cette histoire de la tension entre État et ville, ou si vous voulez, palais et ville. Est-ce qu'il faut vraiment prendre au sérieux cette idée du palais qui surplombe la ville, pas seulement littéralement, mais en quelque sorte, c'est un effet vraiment de contrôler la ville, de déterminer en quelque sorte le destin de la ville. C'est une question, par exemple, qui est étudiée dans ce livre relativement récent par trois auteurs où on essaie de comparer Istanbul avec Izmir d'un côté et Alep de l'autre côté, en faisant donc cette comparaison entre les villes qui sont plus ou moins commerçantes, hein, en quelque sorte. Alors, en fait, à mon avis, ce rapport difficile entre palais et ville, c'est même, on trouve des réflexions même dans ces deux livres de l'auteur turc le plus connu de nos jours. Si vous avez lu le nom de la Mon nom est rouge, alors là, il y a toute cette question des peintres qui sont dans le palais, qui font des va-et-vient entre un palais devenu très inaccessible, et puis il y a aussi derrière ça toute la question de l'ouverture vers l'Occident par rapport à un monde habité par ces peintres, dans certains, selon Orhan Pamuk était très islamiste déjà au XVIe siècle. C'est un beau roman, mais même si M. Pamuk a étudié avec les meilleurs historiens ottomans de sa génération dans le Boğaziçi University ou Robert College, il faut dire que les historiens ottomans ne sont pas du tout contents avec ce roman. Hein. Ils pensent que c'est une version, assez, un portrait assez faux de ce qu'était la ville au XVIe siècle. Beaucoup mieux, ce sont ses propres souvenirs de la ville où il parle d'une ville au XXe siècle qu'il connaît plus directement. Alors, donc, avec cette fascination toujours exercée par le grand Turc qui se cache, qui est quelque part sur la ville, qui regarde sans être regardé. Ça, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus une espèce de topos quand on arrive à la fin du XVIIe siècle. Ça fait partie de ces vues d'Istanbul qui sont peut-être les plus célèbres de l'époque moderne, de Grelot, qui ont donc accompagné les récits de voyage. Là encore, vous voyez, c'est à partir de Pera, à partir de Galata, qu'on est en train de regarder le sarai, comme on le dit. Même si Grelot était un connaisseur qui nous a laissé des dessins, par exemple, ça c'est la Sainte-Sophie, ça c'est ces espèces de dessins ethnographiques, il a même fait un très beau dessin très détaillé du plan et de la construction de la mosquée bleue de Sultan Ahmed Jami. Hein. En réalité, il a beaucoup contribué à cette vision très, très particulière. Tandis qu'en revenant sur l'idée de Gulru Necipoğlu, son idée c'est que, en fin de compte, cette ville où le sultan s'est retiré, c'était en fait le résultat d'un processus politique. Et c'était quoi? C'était que, donc, tout au long de la deuxième moitié du XVe siècle, tout au long du XVIe siècle, le sultan était parfois dans le palais, mais souvent il était en dehors du palais. Il était souvent parti en campagne. Puis, il y a eu un moment très important, au début du XVIIe siècle, quand il y a eu des assassinats. Quand on a assassiné des sultans. Puis, à partir de ce moment-là, il y a une espèce de changement dans les rapports de force. Le sultan devient de plus en plus faible. Celui qui prend le pouvoir, ce sont des familles de vizirs. Et, en effet, les familles de vizirs, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont décidé de garder les sultans à l'intérieur du palais comme des sultans, en quelque sorte, privés de pouvoir, mais devenus de plus en plus mystérieux. En quelque sorte, ils ont joué sur une idée qui était une idée d'un maître spirituel. Et vous voyez que Istanbul était aussi une ville qui était remplie de loges soufis. Et alors, dans le cadre des maîtres spirituels, il y a toujours cette possibilité du maître spirituel qui est d'autant plus impressionnant qu'il ne parle pas. Donc, comme il ne parle pas, il faut des gens entre lui et les disciples pour interpréter ses silences. Et donc, on peut, à ce moment-là, créer de plus en plus de couches à l'intérieur du palais, et là, donc, c'est là où finalement cette structure qu'on a des cours suivis par des cours, le sultan qui se cache tout à fait au fond revient. C'est là où on a finalement ce sultan qui apparaît vraiment très très rarement et dans des cérémonies où personne, par exemple, est censé parler avec lui. Mais ça, c'est un processus historique qui est en fait le développement du XVIIe siècle. Et c'est là, à ce moment-là, que, en quelque sorte, ce rapport très curieux entre, pour ainsi dire, un sultan barricadé, hein, mais aussi, soi-disant, avec énormément de pouvoir, mais en réalité, presque dépourvu de pouvoir, parce que c'est des autres qui détiennent le pouvoir, que ça devient de plus en plus évident. Et c'est pendant ce XVIIe siècle, d'ailleurs, qu'on a la chance d'avoir une série de témoignages, parce que le XVIIe siècle, pour l'histoire intellectuelle ottomane, c'est quand même le grand siècle, probablement plus que le XVIe. C'est le moment quand on a une vie intellectuelle qui est beaucoup plus poussée. Du côté des Ottomans, on aurait pu mentionner beaucoup, beaucoup de noms, mais j'ai choisi ici deux des plus grands noms, Evliya Çelebi et Katip Çelebi, qui étaient tous les deux en fait, en quelque sorte, ils n'étaient pas des amis, mais ils avaient des amis en commun, ils avaient des maîtres en commun. Evliya était quelqu'un qui venait des origines relativement humbles. Il venait d'un contexte d'artisan, mais il est devenu le plus grand voyageur et qui a écrit le plus grand texte en termes de récits de voyage de l'Empire ottoman. Il a voyagé un peu partout. Il y a quelques voyages imaginaires, il faut le dire. Il parle, par exemple, de ses voyages en Europe occidentale et on a vraiment des graves doutes s'il a fait ces voyages. Mais à l'intérieur du monde des Ottomans et leurs voisins, il a certainement beaucoup voyagé. Il a laissé donc cet énorme texte qui s'appelle Seyahatname. Et l'autre, Katib Chelebi, est un personnage encore plus extraordinaire, une espèce de polymathe, mathématicien, astronome, géographe, qui a fait des atlas, qui lisait les écrits des jésuites sur le Japon, connaissait très bien, par exemple, les batailles navales des Ottomans avec les Portugais au XVIe siècle, et donc qui a été, en fait, parmi les premiers auteurs ottomans qui a été traduit systématiquement dans une langue occidentale. Il a été traduit en latin, déjà quelques décennies après sa mort. Donc, ces deux, mais on peut multiplier, mais c'est aussi donc, à cause de cette vivacité de la ville, de cette vivacité intellectuelle de la ville, que ça devient une espèce de pôle d'attraction pour les Occidentaux. Alors, bien sûr, je n'ai pas besoin ici de dire beaucoup de choses sur Galland. Hein, Galland, en fait, si on regarde le cas de Galland, en fait, nous a laissé un journal des deux ans qu'il a passé à Istanbul en 1672-1673. C'est un journal qui est très, très intéressant parce qu'il parle de son quotidien, comment il a appris le turc, comment il a appris l'arabe, avec qui, en parlant avec qui. Hein. Et là, vous pouvez vraiment voir la formation de celui qui est devenu, à tort et à raison, le traducteur le plus célèbre de sa génération. Mais, en fait, les deux autres sont encore plus importants. Levinus Warner, un Allemand qui travaillait pour les Néerlandais et qui était donc le représentant néerlandais à Istanbul. Mais au lieu de faire le commerce, en fait, il achetait des livres. Donc, il était devenu un grand, grand collectionneur et il a donc nous a laissé une très belle collection, une collection qui reste parmi les plus importantes du XVIIe siècle pour le monde ottoman. Il a donc légué en partie à l'Université de Leyde, mais qui est aujourd'hui en partie en Angleterre. Et puis, il ne faut pas oublier cet autre personnage assez curieux, assez important, qui est le comte Marsilié de Bologne, qui a été prisonnier des Ottomans, mais qui néanmoins avait énormément d'admiration pour eux, qui était, lui, spécialiste de la guerre. Donc, il a, par exemple, rédigé un texte sur l'art de guerre chez les Ottomans. Mais il a aussi, par exemple, il était hydrographe, donc il a fait des études sur le Bosphore, qui était extrêmement important. Et puis, finalement, Marsilié, c'est aussi quelqu'un qui nous a laissé une collection très importante de matériaux sur les Ottomans qu'aujourd'hui on trouve à Bologne. Donc, vous voyez que, finalement, dans ce XVIIe siècle, si on regarde en dehors de ce rapport entre palais et ville, si on va regarder un peu la ville en tant que telle, la ville où il y avait les guildes, les fêtes populaires, les gens appartenant à toutes sortes de professions. Là, vous voyez, on a même les gens qui sont en train de nettoyer les rues, qui faisaient ça comme partie des processions des guildes. Donc, on peut aussi faire Istanbul, donc cette autre histoire qui vient de haut en bas, qui ne va pas finalement peut-être résoudre le problème de savoir qui avait raison, si c'était cette vision de l'économie de commandement d'Inalchik ou autre chose, mais en tout cas, c'est une ville qui a suffisamment de richesses qu'on n'a pas besoin toujours d'avoir comment, le point de vue à partir du palais qui surplombe la ville. On a aussi la possibilité de reconstruire une histoire donc, sociale de la ville en tant que telle. Alors, donc, je vous laisse avec cette idée et on va continuer la semaine prochaine. Merci.